7h42 à Conakry et à Dakar. Tout de suite le sport. Et on parle basket d'abord, Antoine Grenier. La déception de Pascal Siakam, battu cette nuit en finale NBA.
Et pourtant, l'ailier camerounais des Pacers n'a une nouvelle fois pas démérité, inscrivant 16 points et 4 rebonds. Pas suffisant pour empêcher Oklahoma City de décrocher le tout premier sacre de son histoire. Le Thunder, intraitable dans le 7e et dernier match de cette finale, 103 à 91. Et pour Pascal Siakam, son équipe, Indiana, aura donné son maximum.
Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, sans prendre de raccourcis. Je peux le dire fièrement, nous l'avons dit toute la saison, nous ne sommes pas une équipe sexy, pas une équipe que les gens veulent regarder. Pendant longtemps, personne ne s'intéressait à nous. On a fait en sorte que cela s'inverse. Et j'en suis fier. Les supporters nous ont soutenus toute la saison de manière incroyable. On est désolé parce qu'on voulait réussir pour la ville qui le mérite plus que tout. Ces gens respirent le basket. Et pour moi, ça a été une bouffée d'air frais de faire partie de ça, de voir ce que le basket pouvait apporter. On va continuer à se battre.
Côté Thunder, Shai Gilgeous-Alexander décroche à la fois le titre NBA après avoir été couronné MVP de la saison régulière, une première depuis 2015.
Toujours aux États-Unis, Antoine, fin de parcours pour le Wydad Casablanca. Les Marocains surclassés par la Juve et éliminés du mondial des clubs de foot.
Deux matchs, deux défaites, rapidement menés au score 2-0 après 16 minutes. Le WAC s'incline finalement 4-1, mais face à la Juventus comme contre Manchester City, les Casablanca n'auront pas démérité Baptiste Leduc.
Le Wydad se sera tout de même offert un frisson. Ce but de Temelin Kossi-Lorche pour revenir à 2-1 a littéralement enflammé le stade. Les supporters ne résistant pas à l'envie de craquer quelques fumigènes. Impressionnant en tribune et volontaire sur le terrain, les Casablancais ont fait leur possible.
On savait que c'était une équipe sérieuse.
Le français Kefren Thuram et toute la Juventus ne voulaient pas sous-estimer ce Wydad.
Avec des joueurs qui allaient vite et une équipe très agressive en phase défensive, donc on est content d'avoir gagné.
L'aventure n'ira pas au-delà de cette phase de groupe, mais les coéquipiers du tout jeune Yacine Benani repartiront des États-Unis des souvenirs plein la tête et de l'expérience dans les valises.
Déjà moi en tant que jeune, je rappelle que j'ai que 16 ans, déjà faire partir de la Coupe du Monde avec mon club de cœur et affronter des équipes qu'on voit normalement qu'à la télé ou qu'à la play, c'est un plaisir de fou. Bien sûr on profite, on prend de la graine, on prend exemple sur eux. Et bien sûr, on se fixe comme objectif en viso et d'atteindre pourquoi pas ce niveau, on espère toujours. Hein.
Dernière occasion de goûter à la victoire jeudi à Washington contre Alain. Baptiste Leduc, Philadelphie, RFI.
Un dernier match de phase de groupe sans enjeu pour le Wydad, éliminé après la large victoire de Manchester City 6-0 justement sur les Émiratis d'Alain.
Et un lundi 23 juin, Antoine, qui restera dans l'histoire du sport africain puisque c'est aujourd'hui que Kirsty Coventry devient officiellement présidente du CIO.
À 41 ans, l'ancienne nageuse zimbabwéenne prend officiellement la succession de Thomas Barr. Elle entame un mandat de 8 ans, première femme à accéder à ce poste. La double championne olympique du 200 mètres d'eau en 2004 et 2008 mènera dès mardi une concertation avec tous les membres du Comité international olympique pour définir la feuille de route des 8 années à venir.
Merci à vous Antoine Grenier, du sport en toile de fond, d'une série de reportages à suivre toute la semaine sur RFI consacrée aux 30 ans de la Coupe du Monde de rugby de 1995, c'était en Afrique du Sud. Compétition remportée à domicile par les Springboks devant le président Nelson Mandela et événement à l'époque éminemment politique puisque le dirigeant sud-africain s'en sert comme d'un outil pour prôner la réconciliation dans le pays. Car le sport n'était pas épargné par le régime d'apartheid et les joueurs noirs exclus de l'équipe nationale. Pourtant, et on va l'entendre dans ce premier épisode ce matin, les communautés noires et métisses ont une histoire avec le rugby qui remonte bien avant 1995, ce que des chercheurs s'emploient actuellement à documenter. Claire Bargelès.
Voici les archives de l'université de Witz.
Dans ce labyrinthe de rayonnage, tout au bout d'une allée, se trouve une section consacrée à l'histoire des formes de résistance face à la ségrégation dans le sport. Parmi les trésors rassemblés, Ajit Gandabai exhume d'anciens documents sur de vieux clubs de rugby qui existaient dans les communautés noires et métisses.
Ici, on a une brochure commémorative du club de rugby des Newtonians qui a été formé en 1948. Il y a également des comptes rendus de réunions qui se sont tenues.
Adjit Gandabaï et son équipe ont récolté des archives auprès d'anciens joueurs ou directeurs de clubs, car afin de sauver cette histoire de l'oubli, il a fallu aller au-delà des sources traditionnelles qui passaient volontairement sous silence les pratiques sportives multiraciales.
Established.
La presse officielle ne couvrait pas le sport non ségrégué. Mais cette histoire doit être racontée, et plus seulement à partir de 1995.
Arrivé par le port du Cap avec les colons britanniques, le rugby s'est propagé au sein des communautés noires via les missionnaires et leurs écoles au XIXe siècle. La passion de la balle ovale s'est particulièrement emparée de la province du Cap Oriental, au sud du pays. Un mot, en Xhosa, a donné son titre à l'un des ouvrages coécrits par le chercheur Buntu Siwisa.
Le terme umboko signifie la forme hexagone pour désigner le ballon qui n'est pas rond. Donc le fait qu'on ait décrit cette forme en Isikosa permet une déconstruction décoloniale de qui peut s'approprier le rugby. C'est aussi notre sport.
Ces clubs de rugby jouaient aussi un rôle dans le mouvement de résistance contre l'apartheid, selon l'enseignant de l'université de Johannesburg.
Déjà à l'époque, c'était beaucoup plus que du sport. C'était un outil de mobilisation politique. Par exemple, les militants frappés d'interdiction, qui ne pouvaient pas être vus dans des rassemblements, se servaient des clubs comme de lieux où ils pouvaient se retrouver, planifier des actions. Et les stades où on joue au rugby pouvaient être utilisés pour d'immenses funérailles politiques.
Quant aux spectateurs noirs et métis qui suivaient les matchs internationaux, ils supportaient bien souvent d'autres équipes ennemies des Springboks, et notamment les Néo-Zélandais qui avaient un effectif plus mixte. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on peut trouver nombre de fans des All Blacks dans les stades sud-africains. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Johannesburg, oui, il est 9h48, premier épisode de cette série de reportages sur RFI consacré aux 30 ans de la Coupe du Monde de rugby de 95. La suite, demain.
RFI à Antananarive, 96 FM.
Et oui, direction Madagascar à présent, qui voit défiler depuis quelques années de plus en plus de figures de la scène R&B et rap. Derrière cette tendance, la volonté d'une poignée d'acteurs de créer un écosystème économique et culturel capable d'appuyer ce genre d'événement sur la grande île. Dernière illustration en date avec le concert de Tiakola, le chanteur français réputé pour son rap mélodieux, a réuni ce mois-ci 4800 personnes à Antananarive. Pauline Le Troquier a suivi les coulisses du concert.
19h30 au Palais des Sports, deux écrans géants derrière lui, une foule en liesse, première connexion entre Tiakola et le public malgache sur l'un de ses classiques, Si je savais. En coulisses, depuis plusieurs mois, un natif de Madagascar œuvre à la venue du rappeur sur l'île et Nasser Goulamoussen a de quoi convaincre. Son agence Nasprod est réputée pour l'organisation des concerts d'Aya Nakamura, d'Adju ou encore Maître Gims en Afrique. Sonia Ali Ahmed, directrice de production au sein de la société, résume son ambition.
C'est vraiment participer à ce tournant économique que prend Madagascar. Par quoi, finalement, on veut vraiment participer à l'attractivité du pays par le biais de l'offre culturelle. Et ce qui a fait que, justement, on a décidé de prendre ce tournant en termes de production, c'est qu'il y avait beaucoup de manquements. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas nous ? On a la compétence, on sait le faire, on le fait dans d'autres pays, donc pourquoi pas Madagascar ?
Tiakola poursuit un show millimétrique, rien ne peut venir perturber, pas même les délestages en cours au même moment dans la capitale. Depuis 5 ans, des progrès logistiques et techniques ont permis de maîtriser les défis locaux. Toutz Rabé est coordinateur général de KP Event, agence d'événementiel malgache co-organisatrice de l'événement.
Ce qui est proposé devient de plus en plus qualitatif. C'est ce que nous aussi on aspire à faire en faisant des sets et de la cinématographie autour des concerts, etc. Avant, il y avait très peu d'écrans, par exemple, pendant les concerts. Et ça relève au niveau, en fait, en général. Les artistes passent, les autres voient, et je pense que ça inspire vraiment. Donc, ce sera beaucoup plus facile de capter, en fait, ces nouveaux artistes. On est vraiment optimistes.
Après avoir orchestré ensemble le concert de Taïk et d'Adju en 2024, Tiakola cette année, Nasprod et KP Event entendent unir leurs forces sur d'autres productions à Madagascar. Pour Elliot Ranjamandjad, cofondateur de Hype Mada, un collectif qui soutient la culture urbaine sur l'île, la scène des concerts doit encore se professionnaliser.
Tout ce qui manque en fait à Madagascar pour commencer à être vraiment comme l'Afrique du Sud ou la Côte d'Ivoire, c'est des standards dans l'accueil des artistes, dans le traitement des artistes, les loger dans des bonnes conditions, à les amener au concert dans de bonnes conditions, faire en sorte que ça commence à l'heure.
Le futur de la scène musicale sur l'île dépendra aussi du pouvoir d'achat de la population. Pour la majeure partie d'entre elles, aujourd'hui, assister à un concert national est déjà un luxe. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Un reportage Afrique Économie sur RFI à Antananarivo où il est 10h52. On continue en musique. Notre choix musical comme chaque jour avant 10h sur RFI et on commence la semaine avec du piano, vous l'entendez sous ma voix, c'est doux, c'est calme, c'est bien, ça nous permet d'atterrir en douceur pour la fin de cette matinée et c'est l'histoire de l'enregistrement d'un album mythique, surtout le Köln Concert de Keith Jarrett. Bonjour Sophie Torlotin.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
On parle avec vous d'un album mythique pour les mélomanes hein, dont on commémore les 50 ans. Il a été donné ce concert à Cologne en janvier 1975 et un film qui sort ce mercredi en France dans les salles obscures en raconte l'organisation.
Oui, hein, cet album culte s'est vendu à 3 500 000 exemplaires, un record pour un disque de piano solo. Donc sa postérité dépasse le seul cercle des amateurs de jazz et pourtant ce concert aurait bien pu tourner au fiasco. C'est ce que montre le film Au rythme de Vera, centré sur la personnalité de Vera Brandes, une jeune Allemande de 18 ans qui a dû affronter 1000 tourments pour organiser le concert du prodige américain, du prodige du piano, à l'Opéra de Cologne en Allemagne en 1975. Keith Jarrett, à l'époque âgé de 29 ans, arrive épuisé dans la ville. Il commence par refuser catégoriquement de jouer car le quart de queue installé sur scène n'est pas l'instrument qu'il avait demandé. Il finira par accepter. La salle comble retient son souffle et il commence par 5 notes, ce que vous avez entendu au début, hein, sol, ré, do, sol, la. C'est le motif musical annonçant le début de chaque concert donné à l'Opéra de Cologne.
5 notes qui lui donnent l'inspiration.
Et oui, parce que pendant plus d'une heure, il va donner libre cours à la musique brodant sur ce motif, naviguant entre jazz, baroque, folk. C'est l'inconscient qui guide ses mains. Keith Jarrett, virtuose du piano, a commencé à l'étudier à 3 ans avec sa mère musicienne. Il donne son premier concert à 7 ans, devient musicien professionnel à 10. L'improvisation, pour lui, c'est comme, je cite, « être inondé de propositions qui traversent le corps ». Et d'ailleurs, vous allez l'entendre sur l'extrait suivant, il chante sur scène, hein, comme en transe. Un peu s'exclamer, mais en revanche Keith Jarrett ne supporte pas d'être perturbé par des sons parasites extérieurs. Il a déjà interrompu un concert parce qu'une personne du public avait toussé, par exemple. Ce qui lui vaut une réputation de star capricieuse ou mégalomane, mais ce qui émane de lui résulte de l'atmosphère et de l'ambiance qu'il y a dans la salle. Il cherche, il essaye, il conçoit la musique directement sous les yeux des spectateurs. Alors Keith Jarrett s'est formé aux côtés des plus grands. Hein. Le grand trompettiste Miles Davis lui a proposé plusieurs fois d'intégrer sa formation, qu'il finira par rejoindre avant de créer la sienne, puis de se produire seul dans les salles du monde entier. Son jeu très libre, nourri de diverses influences, a fasciné les grands noms du jazz. Alors avec sa coupe afro et son teint mat, on le prenait plus jeune hein, pour un afro-descendant. « Tu dois forcément être noir », lui a dit un jour le saxophoniste Ornette Coleman. J'y travaille, lui a répondu Keith Jarrett, aux origines écossaises et hongroises.
Et vous nous invitez donc, Sophie, à écouter ou réécouter cet album, car Keith Jarrett ne donne plus de concerts.
Mais oui, à 80 ans, il souffre d'une paralysie de la main gauche. Mais sa maison de disques a sorti en mai dernier un nouvel album, enregistré à Vienne en 2016. C'était son dernier concert. Mais qui prouve que ce génie de la musique n'avait rien perdu de son talent musical quasi mystique.
Et c'était donc notre choix musical ce matin, Keith Jarrett et l'extrait donc de son disque Köln Concert, avec lequel on se quitte tout de suite, un indémodable Sophie Torlotin, 50 ans après sa sortie. Merci à vous Sophie.
Merci.
Piano est notre choix musical pour se quitter ce matin sur RFI. J'étais ravie une fois encore d'avoir passé ces 3 heures à vos côtés. Dans 2 minutes, le journal d'Arthur Ponchelet. On va revenir bien sûr sur la situation au Moyen-Orient, la guerre entre l'Iran et Israël, ces frappes américaines et ce tournant dans ce conflit. Vous allez en parler avec les auditeurs d'RFI dans une poignée de minutes. Bonjour Juan Gomez.
Bonjour Andréane Mellard. Bonjour à toutes
et
à tous.
La première partie d'Appel sur l'actu aujourd'hui, celle des questions. Dans la deuxième partie, il sera question de la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara. Ira-t-il ou ira-t-il pas ?
Oui, il fait durer le suspense. Samedi, son parti l'a désigné candidat à la présidentielle du mois d'octobre. Sa réponse était forcément très attendue hier lors du discours de clôture du congrès du RHDP. Seulement voilà, le président sortant se donne encore quelques jours pour prendre une décision. Alors vrai ou faux suspense, va-t-il briguer un quatrième mandat ? On en parle tous ensemble ce matin. Andréane Mellard, bonne journée.
Bonne journée, à demain.
Dans moins de 2 minutes, le journal.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
prévention et prise en charge des infections urinaires.
Demain,
Ozempic, quelle efficacité dans le traitement de l'obésité ?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Journée internationale des veuves. Comment en finir avec la stigmatisation et l'injustice ?
Demain,
cuisiner en Afrique et en Espagne. Ensemble, nous allons lier les sauces. Rencontre avec des femmes chefs.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
En Roumanie, le candidat d'extrême droite arrivé en tête, puis écarté du premier tour de la présidentielle, avait fait campagne sur TikTok. Comment expliquer la puissance de ce réseau social qui a conquis un Roumain sur deux de 15 à 85 ans ?
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.